RCF.
Émission spéciale, Jean-Baptiste Cocagne.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans cette émission spéciale consacrée aux états généraux de l'information. Une grande consultation lancée par le gouvernement à l'automne dernier pour réfléchir sur le rôle des médias dans notre société et leur devenir. Pendant une heure, nous allons recevoir plusieurs invités pour évoquer ce sujet des médias, des journalistes, patrons de presse, mais aussi des citoyens participant à ces états généraux de l'information. Cette table ronde a été enregistrée lundi 4 mars dernier à l'université Lumière Lyon 2, dans le cadre d'un événement organisé par le Club de la presse de Lyon et de sa région. États généraux de l'information, quelle place pour l'info locale ? C'est le sujet que nous allons aborder pendant une heure, ensemble avec nos invités.
Les états généraux de l'information, en partenariat avec le Club de la presse de Lyon, émission spéciale.
Ils sont cinq avec nous aujourd'hui pour discuter de ces états généraux de l'information. Tout d'abord, Françoise Dédier, bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Merci d'être avec nous. Vous êtes communicante, consultante en stratégie média. Mais on vous reçoit aujourd'hui parce que vous avez été l'une des 100 personnes qui ont participé à la rédaction de la contribution citoyenne de ces états généraux de l'information. Vous avez été tirée au sort. Et après ce tirage au sort, eh bien, vous avez été convoqué à Paris pour réfléchir pendant deux week-ends à tous les thèmes soulevés par ces états généraux de l'information. Vous nous direz ce que vous en avez retiré comme expérience. Alexandre Buisine, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous avez et vous continuez de participer vous aussi à ces états généraux de l'information, mais avec la casquette syndicale. Vous êtes l'un des cinq secrétaires généraux du SNJ, le syndicat national des journalistes. Et vous êtes en charge notamment de la rédaction de la contribution du SNJ à ces états généraux de l'information. Vous êtes par ailleurs vous-même journaliste. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Nouveau Lyon. Troisième invité avec nous, c'est Muriel Florin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes présidente du Club de la presse de Lyon depuis quelques semaines. Et vous êtes vous aussi journaliste au Progrès, au service Rhône. Vous travaillez au siège à Lyon Confluence. Le Progrès, c'est le titre de presse locale le plus puissant aujourd'hui dans la région lyonnaise. 700 000 lecteurs quotidiens en moyenne, de la Haute-Loire jusqu'au Jura. Et puis aussi plus de 3 500 000 pages vues par jour sur leprogrès.fr avec 250 journalistes. La presse écrite lyonnaise qui est représentée aussi par un autre invité ce soir, François Sapi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes président de Rosebud Édition, société de presse locale avec 48 salariés et qui diffuse 4 titres, un hebdomadaire généraliste, Tribune de Lyon, le magazine mensuel économique Lyon Décideur, ainsi que 2 mensuels gratuits, Exit Mag sur l'actualité culturelle et Grain de sel dédié aux familles avec enfants. Vous êtes par ailleurs membre du conseil d'administration de l'Alliance de la presse d'information générale, l'API, qui regroupe les éditeurs de presse généralistes en France. Et donc on aura aussi intérêt avec vous à voir ce que vous partagez en tant qu'éditeur de presse pour ces états généraux de la formation. Enfin, dernière invitée de cette table ronde, Stéphanie Lucien-Brun, bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de la Société des Amis de Médiacité, un pure player d'information et d'investigation locale, un site internet d'information, hein, c'est ce qu'est un pure player sans déclinaison papier, et qui compte aujourd'hui 5700 abonnés. La Société des Amis de Médiacité, c'est une structure juridique qui permet aux personnes physiques d'abonder au capital de ce média. Avec vous, on verra donc comment la production de l'information ne concerne pas que les seuls journalistes, mais aussi les citoyens. Alors voilà pour les présentations. On va commencer quand même par expliquer ce que sont ces états généraux de l'information, parce que c'est peut-être ce que l'on va développer pendant cette table ronde. On ne sait pas forcément précisément ce que c'est, et ce, même quand on est journaliste. Souhaité par Emmanuel Macron, c'est une grande concertation qui a été lancée officiellement en octobre 2023, pilotée par Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières. L'idée, c'est de consulter professionnels, citoyens, sur la production de l'information aujourd'hui, au XXIe siècle, afin de faire des propositions, qu'elles soient législatives, budgétaires, fiscales, sociales, des propositions à faire en juin pour répondre à 3 objectifs. Garantir un accès à une information libre, indépendante et fiable, comprendre l'impact des technologies et des innovations, et je pense qu'on parlera pendant cette table ronde d'intelligence artificielle, et puis troisième grand objectif, renforcer la citoyenneté et la démocratie à travers l'information. Alors on va commencer avec vous, Alexandre Buisine, vous qui êtes secrétaire général du syndicat du SNJ. À quoi peuvent bien servir ces états généraux de l'information ?
On le saura à la fin, c'est un petit peu difficile à dire dès le départ, mais effectivement, vous avez cité les grandes thématiques. Est-ce que ça sera des réformes législatives ? Est-ce que ça sera des questions sur le... Parce qu'il y a aussi la question des modèles économiques, effectivement, de la presse aujourd'hui qui sont en jeu. Donc, il y a déjà eu par le passé ce type d'états généraux qui n'ont pas toujours débouché sur grand-chose à la fin. Donc, c'est un petit peu un des enjeux. Ça permet effectivement de faire l'état des lieux aujourd'hui, d'avoir les propositions et les contributions de beaucoup de parties prenantes, qu'ils soient citoyens, qu'ils soient syndicats professionnels, qu'ils soient syndicats de journalistes et autres organisations. Maintenant, qu'est-ce qu'il en sera fait ? 5 groupes de travail travaillent sur ce sujet, auditionnent, vont faire des propositions. Devait les faire en mars, je pense que ça sera plus tard. A priori, ils prennent quand même beaucoup de retard. Et voilà. Et après, effectivement, il y a encore un filtre derrière qui est celui du pouvoir législatif, notamment pour savoir ce qui sera retenu ou pas.
Alors vous-même, vous avez été auditionné par un des groupes de travail, celui présidé par Christopher Baldelli. Qu'est-ce que vous avez souhaité porter à la connaissance de cette organisation des EGI, ces états généraux de l'information ?
Plusieurs choses. Bon, déjà un constat effectivement sur la situation des médias et de la profession. Situation de précarité, parce que ça n'est pas assez dit, mais il y a l'image d'Épinal du journaliste et puis il y a la réalité quotidienne qui est quand même beaucoup moins rose. Et puis après, on le voit puisque l'actualité est quand même égrenée par les réductions d'effectifs ou les plans sociaux. Vous présentez un petit peu toutes les personnes qui sont autour de la table, y compris le Progrès est touché aujourd'hui, notamment par des réductions d'effectifs. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez général, donc qui est d'actualité. Et puis après, il y a la question des propositions, parce que les possibilités d'avancer, elles existent. Tous les professionnels en ont, donc il faut voir comment elles peuvent être prises en compte. Effectivement, que ce soit la question de la loi sur la concentration dans les médias, qui pose aujourd'hui un problème, les questions d'indépendance qu'on voit beaucoup ressurgir dans les propositions citoyennes d'indépendance des journalistes et des rédactions, sur lesquelles il peut y avoir des propositions à faire. L'État intervient déjà avec plusieurs centaines de millions qui sont versés par les aides à la presse. Donc est-ce que, en tant que citoyen, on accepte que cet argent soit versé sans droit de regard sur ce qui en est fait et sans condition sur des contreparties ? C'est quand même une question qui peut être aussi importante que nous on porte. Et puis il y a tout simplement le respect du droit du travail aujourd'hui, sur la capacité effectivement à avoir des journalistes qui sont bien rémunérés, qui ont une situation stable, ils peuvent se consacrer réellement à leur travail et en toute indépendance. Et aujourd'hui, plus vous êtes en précaire, plus c'est difficile effectivement de travailler dans des bonnes conditions.
Le financement, c'est évidemment une question clé qu'on abordera un peu plus tard dans cette discussion. Donc dans ces états généraux de l'information, il y a des groupes de travail, je le disais, qui sont composés de chercheurs, de journalistes, d'experts. Et puis, il y a aussi une concertation citoyenne à laquelle vous avez participé, Françoise Dédier. Donc, pendant 4 jours, 100 citoyens tirés au sort ont réfléchi à Paris à la question suivante. Comment construire une information qui renforce la démocratie ? Vous avez rendu, à l'issue de ces week-ends, une petite centaine de pages de rapports. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience ?
On était 100 citoyens, effectivement, arrivés vraiment de toute la France. Ce qui m'a le plus interpellée, je dirais, c'est qu'il y a 3 points que je retiens. Principalement, c'est effectivement cette question de confiance aujourd'hui qui est vraiment remise en cause par les citoyens sur l'information. Quelle crédibilité lui donner ? On a senti beaucoup de confusion, qu'il y avait beaucoup de confusion qui existait dans la lecture et dans la réception de cette information, que le citoyen avait besoin de plus de transparence, et effectivement aussi de renforcer, comme vous le disiez, la position du journaliste. Après, il y avait aussi un deuxième point qui a été quand même bien, je n'oserais pas dire débattu, parce qu'on a débattu, mais on a quand même plutôt essayé de discuter et de construire, qui était effectivement la responsabilité du citoyen, comment lui pouvait effectivement s'intéresser plus particulièrement à cette presse, à ces médias, qui en fait assuraient la démocratie. Donc,
Est-ce que vous avez vu finalement, c'est que c'est assez flou pour le citoyen, par exemple la notion de ligne éditoriale, c'est pas quelque chose qui forcément parle d'emblée aux lecteurs ou aux non-lecteurs de la presse d'ailleurs.
Alors je pense que c'est un point très important et je pense que c'est ce qui était intéressant justement, cette question de s'intéresser à cette vue du citoyen, c'est effectivement qu'on se rendait compte que le flou existait, que cette lecture ou justement ou cette écoute d'émissions parfois ou de magazines où le politique se retrouvait dans du divertissement, quelquefois, pouvait effectivement créer du flou. Après, il y avait aussi toute cette présence renforcée des médias sociaux qui crée encore un nouveau flou, avec en plus de plus en plus un langage quand même un peu agressif aussi, qui est dérangeant quand même pour le lecteur, et qui crée quand même effectivement, j'oserais presque dire, une certaine insécurité dans la lecture de l'information.
Sur le climat de cette concertation citoyenne, le premier week-end ou la première heure, il y a eu pas mal de virulence, et puis finalement ça s'est apaisé. Il y a quelque chose qui s'est joué aussi finalement dans cette discussion des états généraux de l'information?
Alors il faut savoir que déjà, ceux qui étaient venus ou qui participaient malgré tout étaient quand même allés sur cette plateforme, donc c'est des gens qui s'intéressaient au sujet quand même. Donc effectivement, beaucoup sont venus avec de l'appréhension, certains avec leurs petits problèmes. Et les deux premières heures ont été un petit peu tendues parce qu'il y avait beaucoup de méfiance, je dirais, dans l'organisation. Toutes les questions ont été posées. La parole était assez vraiment ouverte pour que chacun puisse poser ses questions avant que ça commence. Ça a permis ensuite de débattre et de réfléchir dans des conditions très apaisées, même, je dirais.
Et donc le rapport, finalement, on en parlera un peu plus avec les mesures tout à l'heure, mais vous avez l'impression qu'il y a eu une vraie réflexion nourrie, dense et intéressante?
Alors c'était très bien organisé, parce qu'en fait, tout était construit en intelligence collective, c'est-à-dire qu'on était 100, mais après, on avait chacun des questions, on était sur 5 groupes, avec des questions différentes. Et au sein de ces 5 groupes, on se retrouvait ensuite par groupe, ce qu'on appelait en G7, c'est-à-dire qu'il y avait le G7, on était par 7. 7, on rendait ensuite notre avis au G20, c'est-à-dire un cinquième, je dirais, de cette assemblée. Donc tout était à nouveau redébattu, tout le monde tombait d'accord, et quand tout le monde tombait d'accord, on en rapportait à nouveau en hémicycle où on était 100. Donc cette organisation qui était vraiment très organisée, très rythmée, avec des horaires qui étaient bien tenus, nous a permis quand même d'avancer un peu rapidement, parce qu'au départ, c'était aussi dans notre méfiance et qu'on se disait, en 2 week-ends, ça va quand même être court, parce que les questions étaient quand même parfois assez techniques. Mais je dirais qu'on est resté concentré sur nos sujets, oui.
Et pour ne pas réinventer la roue, il y avait des vérificateurs de faits qui étaient là, que vous pouviez solliciter pour voir si, par exemple, vous n'aviez pas imaginé une instance de régulation qui existe déjà, et pour justement que ça fasse avancer le schmilblick. Muriel Florin, vous qui êtes journaliste et présidente du Club de la Presse, je le disais en introduction, même en tant que journaliste, alors qu'on devrait être concerné au premier chef, on n'a pas forcément idée de ce que sont ces états généraux de l'information. Comment vous l'expliquez? À quoi ça sert finalement?
Alors, à quoi ça sert? Je répondrai un petit peu comme Alexandre Buzyne, c'est-à-dire on verra à la fin. Ce que je peux dire, en ce qui me concerne, c'est que je remarque que les journalistes sont finalement peu au courant de ces états généraux, en tout cas dans ma rédaction. Je peux remarquer aussi qu'il faut de la cohérence entre l'affichage d'états généraux et les actions qu'on mène sur le terrain, c'est-à-dire on ne peut pas à la fois perquisitionner ou confisquer du matériel à des journalistes, les convoquer et dire qu'on veut protéger l'information. Donc ça, c'est quand même important. Et peut-être un troisième élément de réflexion, c'est je me dis qu'on ne réglera pas tout avec de l'éducation aux médias et à l'information. Il faut effectivement que cela existe, mais il faut des bonnes conditions d'exercice du métier avant tout pour pouvoir produire de l'information de qualité.
Est-ce que ça reste, malgré tout, malgré les limites, une fenêtre, une petite opportunité pour quand même poser ça dans la discussion? Alors c'est vrai que cette émission, par exemple, en est un exemple. Elle est peut-être bien rare au milieu d'un paysage médiatique, mais est-ce que quand même il y a des messages à faire passer? Et si oui, lesquels, selon vous, seraient importants à faire passer?
Non, mais bien sûr, je ne veux pas du tout préjuger du résultat des états généraux de l'information. C'est quelque chose qui existe, qu'elle mérite d'exister. On verra donc ce que ça donne et ce que ça donne, oui, en termes de soutien réel aux organismes de presse, en termes de respect des conditions d'exercice de notre métier, de nos sources, etc. Personnellement, je peux dire que je ne m'y suis pas énormément non plus intéressée. Voilà, je regarde ça. J'attends surtout les conclusions en mars et juin, plutôt.
François Sapi, vous êtes directeur de presse, on peut dire ça comme ça, président de Rosebud Édition. Vous me disiez, en échangeant pour la préparation de cette émission, pourquoi finalement, en France, on a toujours besoin d'aller chercher quelque chose de très central, comme ça, une énorme concertation. Ces états généraux de l'information, pour vous, ils pourraient déboucher sur quoi, ou qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'ils soient utiles ?
Alors, si vous me demandez mon avis en tant que citoyen, effectivement, c'est intéressant que les garanties de la liberté de la presse soient issues d'une vision un peu centralisée de la loi. Mais à vrai, en vérité, en tant qu'éditeur, j'en attends absolument rien du tout. Parce qu'en France, on a une sorte de tropisme de s'adresser toujours à l'État et penser que l'État va régler tous nos problèmes. Or, je ne pense pas. Je pense que ceux qui rendront la presse plus performante en France et qui font que les journalistes seront mieux payés qu'ils ne le sont aujourd'hui et que les entreprises de presse seront plus prospères, donc plus à même de garantir une information objective sans être tentée par toute forme de corruption, c'est qu'en fait, éditeurs et salariés représentés par les syndicats s'entendent, et j'ai pas besoin de l'État pour me dire en fait qu'est-ce qu'il est bien de dire dans les journaux que je dirige, ou d'ailleurs que je ne dirige pas en fait. Hein, mais en gros, cette vision française d'une, enfin française, je ne sais pas si c'est français, en tout cas c'est beaucoup le cas en France. Beaucoup moins, par exemple, en Suisse ou aux Pays-Bas, qui sont deux pays que je connais bien, où la presse est, où il y a des entreprises de presse très puissantes, où les journalistes sont beaucoup mieux payés, bien mieux payés qu'en France, et c'est tant mieux. Effectivement, pour l'instant, en tant qu'éditeur, je n'en attends pas grand-chose, à vrai dire.
Produire de l'information coûte cher. Quelles sont les problématiques auxquelles vous êtes confronté aujourd'hui en tant qu'éditeur de presse ?
Alors, il y a un exemple. Un exemple qu'il faut aller chercher au Canada. Le marché publicitaire du Canada, aujourd'hui, il est détenu à 80% par deux acteurs. Deux acteurs. Ce marché qui était auparavant le marché de la presse, qu'elle soit écrite, audiovisuelle, aujourd'hui, les deux entreprises qui squattent 80% du marché publicitaire au Canada, c'est Google et Facebook. Et ça va arriver en France. Et aujourd'hui, moi qui suis un éditeur et donc qui contrairement à d'autres éditeurs, vit aussi de la publicité, je vois le marché se dérober sous nos pieds. Donc il va bien falloir un moment trouver quelque chose pour remplacer ce chiffre d'affaires qui, pour l'instant, va nourrir des entreprises américaines, Facebook, à travers Meta, à travers Facebook, Instagram, ou Google. Il y a des pans entiers du marché publicitaire qui ont disparu pour la presse. Les commerces locaux ne vont plus dans la presse locale, ils font du Facebook. Et d'ailleurs, quelque part, ils ont raison, parce qu'en fait, c'est plus efficace. Donc, nous, il va falloir qu'on trouve des nouveaux moyens, nous les éditeurs, pour pouvoir continuer à faire notre métier et à le faire bien, à savoir rémunérer correctement les journalistes pour qu'ils puissent produire une information de qualité. Mais c'est compliqué.
Ça veut dire régulation du marché ? Est-ce qu'il faut s'en remettre à l'État franco-français ?
Écoutez, chaque fois que le régulateur intervient, ça ne se passe pas super bien, en fait. Donc, je ne sais pas. Ce serait un peu péremptoire là, de dire si j'avais la méthode, je l'appliquerais. Je ne l'ai pas, mais les états généraux de l'information, j'en reconnais le côté très important pour nous autres citoyens qui sommes impliqués dans la démocratie et dont les médias sont un rouage assez essentiel. Mais en revanche, en tant qu'éditeur, comme vous le disiez, je suis un peu impliqué dans le syndicat des éditeurs de la presse d'information politique et générale à Paris, et je suis sceptique sur le fait que ça nous aide à construire des modèles économiques qui sont meilleurs qu'ils ne sont. Enfin, parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile. Nous, on a créé 25 emplois de journalistes en 15 ans. Je crois que c'est une expérience presque unique, parce qu'il y a des postes de journalistes qui sont détruits tout le temps.
En fait. Et les lecteurs suivent, mais en même temps, vous êtes aussi confrontés à une inflation des coûts. Par ailleurs, on y reviendra sur la question du financement. On va parler d'un autre modèle économique, c'est celui de l'abonnement avec Médiacité, celui de l'abondement avec des personnes physiques. Stéphanie Lucien-Brun, c'est ce que vous représentez en tant que présidente de la Société des Amis de Médiacité. Alors, on parlait de ces états généraux de l'information qui peut-être nourrissent un certain scepticisme d'entrée. Vous avez carrément participé à des états généraux off, on va dire, les états généraux de la presse indépendante. Vous êtes co-organisateur avec 80 autres médias. Il y a eu une grande soirée à Lyon. Vous avez fait un événement il y a quelques semaines. Pourquoi déjà, finalement, proposer un contre-événement et pour dire quoi ?
Alors, en fait, je ne sais pas si c'est exactement un contre-événement ou si c'est la volonté d'une centaine de médias de prendre acte du fait que les états généraux de l'information, après leur lancement, leur mise en œuvre, a peut-être pas donné toutes les garanties que les résultats allaient être à la hauteur des enjeux face auquel la presse se trouve actuellement. Et donc, il y a eu cette mobilisation de cette centaine de médias entre le mois d'octobre et le mois de novembre pour faire des propositions concrètes qui permettent donc à la fois de faire évoluer le cadre législatif, d'agir contre la concentration des médias et une concentration entre aux mains de personnes détentrices de capitaux extrêmement importants. Alors, ce dont on parle aujourd'hui, c'est d'une bolorisation des médias, hein, de grands actionnaires qui mettent la main sur des médias. Troisième enjeu, c'est celui de renforcer le droit à l'information, c'est-à-dire de garantir qu'il y ait des outils effectifs pour lutter contre les procédures bâillons, la protection du secret des sources, qui sont aujourd'hui des enjeux essentiels. Et puis, le quatrième aspect, c'est aussi celui de réformer les aides publiques à la presse, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où ce sont les plus riches qui vont bénéficier du maximum d'appui de la part de la puissance publique. Donc ça, c'est les quatre enjeux autour desquels se sont réunis cette centaine de médias et qui se sont dit, voilà, il y a un espace qui est ouvert, il y a des états généraux de l'information qui sont organisés. Eh bien, nous, on organise les états généraux de la presse indépendante et on va apporter 59 propositions opérationnelles et concrètes que l'on va livrer à la fois aux citoyens, aux citoyennes, aux élus, à l'exécutif, pour pouvoir ouvrir la réflexion, la nourrir et apporter des mesures concrètes qui se déclinent donc en 59 propositions.
Alors j'aimerais revenir sur Médiacité, parce que Médiacité, c'est un média local, donc c'est une marque nationale, mais c'est des déclinaisons locales à Lille, à Lyon, à Nantes, notamment à Marseille, à Toulouse, je savais qu'il y en avait une dans le sud. Et c'est un média donc d'investigation, on parle parfois de Mediapart local, qui est financé par des abonnements, par la Société des Amis. C'est un média assez récent, qui est né en 2016, si je ne me trompe pas. Pourquoi vous êtes engagée dans cette aventure-là, éditoriale, en tant que simple citoyenne ?
Alors oui, d'abord, effectivement, je vais peut-être préciser la place d'où je parle, hein, parce que moi, je suis lectrice citoyenne. Et en fait, je m'occupe de la Société des Amis de Médiacité, qui est une structure qui a été créée en même temps que la société éditrice de Médiacité. C'est-à-dire qu'au moment où les cofondateurs, cofondatrices de Médiacité ont créé en 2016 la SAS Médiacité, il y a eu cette envie, une intention de créer une relation autre avec ses lecteurs et ses lectrices et d'imaginer que ces lecteurs et ses lectrices pouvaient prendre une place différente dans la vie du média. Donc dès 2017, cette Société des Amis a été créée. Et cette Société des Amis, c'est donc une entité juridique autonome qui se pense au service du média Médiacité, avec à la fois donc une intention de cofinancement du travail de Médiacité. Donc aujourd'hui, nous sommes 164 sociétaires et nous avons abondé à peu près si je reprends, à hauteur de plus de 110 000 euros au capital du Médiacité. Et nous sommes aussi un certain nombre de sociétaires à nous intéresser à la vie du média et à travers différents canaux à pouvoir vivre une relation particulière avec l'équipe du média.
Et qu'est-ce que ça change pour vous en tant que citoyenne, justement, de vous lancer là-dedans ?
Ce que ça change pour moi en tant que citoyenne, c'est d'agir de façon vraiment concrète et incarnée pour faire vivre cette indépendance et cette autonomie d'un média. C'est-à-dire que moi, ma conviction, c'est qu'il n'y a pas de démocratie sans une information qui soit indépendante et qualitative. Ma deuxième conviction, c'est que l'information, elle a un coût. Et ma troisième conviction, c'est que au niveau local, il se passe énormément de choses qui sont à raconter et qu'il y a besoin de pouvoir soutenir l'indépendance et la capacité d'enquête, d'investigation de médias locaux. Donc voilà, moi, c'est ça qui m'a animée dans la volonté de prendre ma part dans la société des
dans l'aventure de Médiacité. Muriel Florin, vous qui êtes journaliste au Progrès et puis journaliste depuis un certain nombre d'années, comment vous voyez l'évolution du métier aujourd'hui ? Quelles sont finalement les grandes questions qui traversent le métier de journaliste à l'échelle locale ?
Oui, ça fait une bonne vingtaine d'années que je suis au Progrès. Alors, tout d'abord, quand même, une petite note positive. Il est question de presse régionale. Pour le moment, la presse quotidienne régionale recueille le plus de confiance parmi les médias de la part de ses lecteurs, un petit peu devant la presse magazine et devant la presse quotidienne nationale. On est à 70% de taux de confiance, donc on n'est pas complètement perdu. Les questions qui traversent, ce sont des questions qui traversent d'une part l'ensemble de la presse, donc c'est-à-dire des difficultés de baisse de lectorat, de modèle économique, etc. Et nous, nos questions, c'est aussi à quel niveau on doit s'adresser aux lecteurs. Historiquement, la presse régionale, elle s'occupait finalement de rapporter ce qui se passait sur les territoires. On a pu nous reprocher d'ailleurs d'être au service des acteurs importants du territoire. Quand j'ai commencé, il y a une bonne vingtaine d'années maintenant, j'ai commencé en remplaçant une journaliste qui était en congé maternité et j'avais deux arrondissements de Lyon en charge. Alors, j'avais deux arrondissements et puis j'avais toute une équipe de correspondants de presse qui me rapportaient justement des informations. Et à l'époque, il y avait une page chaque jour pour ces deux arrondissements lyonnais. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. Le nombre de journalistes a bien sûr diminué et on n'est plus du tout à ce niveau de granulométrie. Donc, qu'est-ce qu'on se demande ? On se demande à quel niveau on doit apporter de l'information. À quel niveau de détail, on va dire, à quel niveau de territoire, petit territoire, grand territoire, en rural, en urbain, c'est pas la même chose. On se demande finalement si on doit faire de l'investigation ou faire du flux pour faire du clic. On se demande plein de choses. Enfin, c'est des tensions qui sont importantes pour nous.
Mais c'est vraiment récent, cette tension-là, ou vous l'avez vu arriver ?
Alors oui, on le voit arriver parce que, enfin, je vais parler du point de vue de journaliste au Progrès. Par exemple, on avait 6 ou 7 éditions locales il y a encore quelques années et aujourd'hui, on n'en a plus que 4. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est pareil, les équipes sur le terrain se rétrécissent. Donc, ne serait-ce que pour couvrir les conseils municipaux où on recueille beaucoup d'informations locales, bien ça devient difficile, compliqué. Or, c'est bien de là et d'autres choses que reviennent des informations non institutionnelles. Moi, quand j'étais en charge du 3e et du 6e arrondissement de Lyon, il m'arrivait d'aller prendre 1 heure, 2 heures pour aller me balader simplement dans les rues de Lyon et voir, voilà, un chantier qui traînait, ou essayer de voir des choses. Le rôle du journaliste, c'est aussi ça, c'est de regarder le monde et puis de rapporter des choses. On n'est pas, on ne devrait pas être derrière notre chaise, enfin, sur notre chaise, pardon, et derrière notre ordinateur, à attendre que l'information nous tombe sous les yeux.
Parce que ce que vous constatez également en face, c'est une professionnalisation de la prise de parole des émetteurs de messages, c'est-à-dire qu'il y a aussi de plus en plus de communication professionnalisée, ou en tout cas très pro, qui arrive dans les boîtes mail des journalistes pour leur servir un sujet sur un plateau.
Oui, bien sûr, il y a de plus en plus de tuyaux d'information. Les acteurs publics ont des équipes de communication qui ont eu tendance à se renforcer ces dernières années. À mon niveau, je reçois 200 mails par jour. Sur ces 200 mails, il y a à peu près 180 sollicitations. Comment je fais ? Je les jette tous à la, tout, je jette tous ces mails à la poubelle. C'est pas l'envie qui m'en manque. Des sujets, il y en a 10, 20 possibles par jour. On a de plus en plus de tri à faire. Et effectivement, il y a eu une organisation de la communication, une sorte presque des fois d'incompréhension. Comment vous n'avez pas regardé mon compte Twitter ? Vous n'avez pas, enfin X maintenant. Finalement, il y a d'une part une organisation de la communication au niveau des entreprises, au niveau des collectivités, au niveau des institutions.
Voire au niveau des individus qui sont devenus des marques.
C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'il y a aussi des acteurs non journalistes qui se sont organisés pour faire leur propre communication. Et voilà, donc on est au milieu de tout ça.
Alors on constate ça, et puis en même temps, il y a des propositions qui émergent. On voit par exemple BFM qui va décliner de nombreuses antennes locales. Plus récemment, Le Figaro qui a aussi ouvert des bureaux en région alors qu'on sortait plutôt d'une période de fermeture. On se rappelle, à Lyon, il y a encore quelques années, il y avait Libération Lyon, enfin Libé Lyon, Le Figaro Lyon, etc. Alexandre Buisine, comment vous voyez ça finalement, à la fois cette précarisation, cette réduction d'effectifs, et on a l'impression parfois un choix qui est refait sur l'information locale ?
Oui, alors je ne suis pas toujours persuadé que ce soit un choix sur l'information locale. Je crois qu'il y a aussi un choix de publicitaire, notamment au niveau de l'audiovisuel en fait. C'est pouvoir proposer des nouveaux supports publicitaires un petit peu partout, des déclinaisons régionales pour ça. Donc il faut, je ne dis pas qu'il n'y a pas aussi une partie information, mais voilà, donc il y a deux choses un petit peu différentes. C'est plutôt bien qu'effectivement, si on peut réinvestir le terrain plutôt que de s'en éloigner comme ils l'ont fait. Mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre pour un certain nombre de médias qui effectivement ont été très présents à Lyon, sont partis, reviennent. Donc je ne sais pas exactement où est le constat, mais c'est sûr qu'effectivement, comme l'expliquait Muriel, la question du terrain pour une information de qualité des citoyens, parce que c'est toujours pareil, on n'est pas sur une des questions corporatistes. En fait, on est sur quelle information, quelle contribution à la bonne information citoyenne et comment effectivement la bonne information citoyenne contribue au bon fonctionnement démocratique. Fondamentalement, c'est ce pourquoi c'est pas tout à fait des marchés comme les autres. On n'est pas uniquement, effectivement, on est dans un milieu économique, mais il y a pas, ça peut pas être la seule variable aujourd'hui dans ces questions-là. C'est pour ça aussi que l'État, pour une part, je dis bien, parce qu'il n'était pas question d'intervenir sur le contenu, mais à une part, doit favoriser le pluralisme et la qualité de l'information par un certain nombre de choses, parce qu'on est sur une matière qui contribue au bon fonctionnement démocratique. Donc c'est pour ça qu'effectivement, rapprocher du terrain, effectivement, reporter, c'est aller voir sur place et rendre compte de ce qu'on voit, ça me paraît effectivement assez important. Après, effectivement, ça demande des moyens, ça demande effectivement une certaine indépendance travailler sur la question de la précarité. C'est là où les états généraux, pour moi, le déroulement des états généraux de l'information questionne, parce que à la fois on dit il faut pas, l'information est une chose trop importante pour la laisser au seul journaliste. C'est un petit peu le message derrière le fait de vouloir faire des états généraux citoyens avec une large participation. Le constat quand même, c'est que au 25 janvier, sur 71 personnes auditionnées, je me suis rendu compte que les syndicats de journalistes étaient les seuls journalistes auditionnés par les états généraux. Tous les autres n'étaient pas des journalistes. Donc, il y avait, et sur les auditions qui étaient annoncées pour courant février, il y avait sur 32 organisations qui devaient être auditionnées, il y en avait 3 plus ou moins représentaient des journalistes.
Qui étaient des experts, des économistes
Ah, sinon, c'est des experts, des économistes, des publicitaires, des hauts fonctionnaires, des chercheurs, des parlementaires, des patrons, des économistes, des juristes. Vous avez tout ce que vous voulez, quasiment sauf des journalistes. Et je vous dis, quand je dis 3, on comptait dedans Christine Kelly, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle représente exactement, mais voilà, je dirais pas la même chose sur les 2 autres qui étaient prévus.
Donc présentatrice sur CNews qui a organisé ses propres états généraux de l'information.
C'est ça,
en parallèle.
Voilà, tout à fait. Donc voilà, on voulait pas trop se centrer sur les journalistes, mais en fait, on les écarte totalement. Côté citoyen, c'est un constat, mais que je retrouve dommage. Mais alors, certes, il y a les contributions citoyennes, mais quand on fait le tour, bon, aujourd'hui, Christophe Deloire est pas là. Le lancement des la première sortie publique des états généraux de l'information, c'était au CERF le 29 novembre. Il y avait moins de monde que ce qu'a rassemblé les états généraux de la presse indépendante à Lyon il y a quelques semaines de ça. Et je ne compare même pas avec le lancement des états généraux de la presse indépendante à Paris le 30 novembre. Alors certes, c'était à Paris et l'autre à Auxerre. Moi, je veux bien qu'on fasse toutes les comparaisons. Ça faisait sale comble avec 700 personnes.
D'ailleurs, sur l'organisation même des états généraux de l'information, vous-même, en tant que SNJ, vous êtes interrogé, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Et vous y êtes finalement allé. Mais j'aimerais recentrer la conversation sur qu'est-ce que vous constatez, vous, en tant que journaliste? Vous êtes, par exemple, rédacteur en chef d'un magazine qui est assez récent. Je ne sais plus quelle est la date de création de Nouveau Lion, rappelez-le.
Oui, 7 ans.
Voilà, il y a 7 ans, 2017. Est-ce qu'il y a une exception lyonnaise en termes de pluralisme de l'information et de cette densité de titres, où finalement Lyon est un peu une exception ailleurs en France?
Moi, je pense que c'est plutôt une exception. Enfin, de ce que je vois depuis plus de 25 ans que je suis journaliste, c'est plutôt une exception parce qu'effectivement, tous les titres nationaux ont eu leur déclinaison locale à une époque, que ce soit Libé Lyon, Lyon Figaro, Le Monde Rhône-Alpes, La Croix, je crois, a eu également des pages locales. À l'époque, effectivement, M6, c'était une des premières locales de M6. Sont venus ensuite, effectivement, Rue 89 Lyon, Médiacité, Rosebud, effectivement, avec Tribune de Lyon, notamment. Donc il y a eu effectivement Lyon Capital, Mac de Lyon, Lyon Mac, puis Mac de Lyon. Enfin voilà, je crois que c'est quand même assez exceptionnel et que donc il y a peu de villes en France hors Paris qui ont eu ce foisonnement-là.
Et vous sauriez l'expliquer ça ou pas?
C'est historique, j'ai jamais vu d'explication. Alors je pense que déjà il y a une taille critique de la ville, enfin de l'agglomération, pour pouvoir avoir cette concurrence entre guillemets saine, plutôt saine à ce niveau-là, puisque même Radio France avait des déclinaisons locales à une époque qu'elle n'a plus non plus. Donc il y a quand même moi je pense qu'il y a une question effectivement de taille et d'intérêt plutôt plus élevé que la moyenne a priori, mais enfin je vous dis c'est vraiment j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu forcément des recherches sérieux sur le sujet, mais pour l'information et cette émulation a aussi créé un lectorat. Il y avait aussi deux quotidiens, enfin je veux dire Dernière Lyonnaise puis Lyon Matin étaient concurrents du Progrès, donc il y avait également deux quotidiens dans les années 80 à Lyon.
François Sapier, là-dessus, vous-même vous avez créé un nouveau mensuel, Lyon Décideur, c'est pas si vieux que ça non plus. Vous nous dites que vous avez réussi à créer 25 postes de journalistes depuis quelques années et en même temps c'est de plus en plus dur. Est-ce que Lyon, c'est une bonne terre de presse et comment vous l'expliquez?
Alors oui, en fait, quand on sort de Lyon, justement, c'est là qu'on se rend compte que Lyon est vraiment un territoire très dynamique. Il y a deux raisons, à mon sens, hein, pour reprendre ce que disait Alexandre tout à l'heure sur le dynamisme de la presse lyonnaise. C'est qu'en fait, la presse dite nationale, qui est en fait une presse parisienne en France, avec des journalistes qui sortent peu au-delà du périphérique, dès que la situation va bien, ils se disent « Ah, la première ville où on va aller tester quelque chose, c'est Lyon ». Comme disait Alexandre, il y a eu Lyon Figaro, il y a eu Libé Lyon, il y a eu Le Monde Rhône-Alpes, il y a eu l'Humain aussi, qui a eu une... Enfin, donc, dès que ça va bien, sur le plan publicitaire, en gros, ils débarquent en province, et pour tester la province, ils débarquent à Lyon. C'est ce qui fait que en général, quand ça va bien, les nationaux arrivent à Lyon et puis après, ils se retirent complètement. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Hein. Il y a des gros hebdomadaires qui n'avaient même plus de correspondants à Lyon. Donc, pour le coup, il y a le mouvement du flux et du reflux parisien. Et puis, il y a une vraie identité territoriale. Et là où il y a une identité territoriale à l'échelle d'un territoire qui fait 1 500 000 habitants, pour la métropole de Lyon, forcément, il y a des éditeurs locaux qui se positionnent sur ce marché. Donc c'est ce qui fait que Lyon, effectivement, est le territoire, je pense, le plus dynamique de France, beaucoup plus dynamique que Paris, qui n'a, par exemple, pas d'hebdo. Il y a la presse dite nationale, qui est en fait une presse parisienne et qui nous donne sa vision parisienne de notre territoire.
Le Parisien aujourd'hui en France, pour ne pas les citer. Je reviens à la question qu'on soulevait tout à l'heure avec Muriel Frelorin du Progrès, où on se disait quel est le bon échelon, parce que vous êtes finalement un groupe de presse locale dans la région lyonnaise, on va dire ça comme ça, et vous avez tenté des déclinaisons ultra-locales récemment qui n'ont pas été suivies de succès. Comment vous-même vous situez finalement, quel est le bon échelon pour la granularité de l'information locale?
Ben alors, j'aimerais pouvoir répondre à cette question. Malheureusement, effectivement, on s'est planté assez sévèrement d'ailleurs, puisqu'on s'est dit qu'on allait organiser sous un mode différent ce que faisait par exemple le Progrès depuis 150 ans à Lyon, à savoir aller vraiment au plus près des quartiers. Pour faire émerger une information qui vient de ces quartiers. Enfin, en gros, pas refaire le schéma des journalistes qui parlent depuis la place Bellecour. En plus, nous, on est basé place Bellecour, en fait, et qui parlent à toute la métropole depuis la place Bellecour. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'était faire émerger dans les quartiers une information ambitieuse, puisqu'on recrutait des journalistes dans les quartiers concernés. Et effectivement, il n'y a pas eu de réponse des quartiers, puisque c'était considéré en fait comme, en gros, de la presse de piètre qualité, et les gens n'étaient pas prêts à payer pour avoir de l'info locale, alors que le vrai territoire d'investigation, pour moi, il est à côté de chez vous, il est au bout de la rue. En fait, moi, j'ai travaillé donc à Lyon Figaro. C'est finalement, quand on est un média national, c'est facile de faire de l'investigation. Il y a toujours un mec, toujours un politique qui va nous lâcher un petit truc, qui va faire investigation. Mais quand vous allez chercher à côté de chez vous un truc qui coince, là, je trouve que c'est vraiment dur. Mais bon, on a échoué. Ouais, on a échoué.
Françoise Dédier, vous qui avez participé à cette concertation citoyenne, est-ce que cette question de la granularité ou de l'info près de chez soi, elle est revenue? Est-ce qu'il y a eu des interrogations là-dessus, voire des mesures proposées?
Alors, il y en a une, c'était pas... Alors, moi, j'étais dans le groupe sur la manipulation de la presse. Donc, en fait, j'ai moins travaillé sur cette question-là. Je sais qu'elle est apparue parce qu'elle est dans le rapport. Donc, effectivement, c'est une question qui est apparue et qui me semble de toute façon vraiment importante sur la nécessité d'une presse locale, puisque justement, dans les chiffres, enfin, dans ce qu'on nous a donné quand même malgré tout comme information, c'est qu'effectivement, il y avait une confiance dans la presse locale et dans l'information de proximité et puis aussi dans l'action politique de proximité. Donc, je pense que cette présence locale est vraiment nécessaire.
Alors, on donne... Alors, François Sapir, allez-y.
En fait, la confiance dans la presse locale, c'est un peu des mots, quoi. Mais je veux dire, qui est prêt à payer aujourd'hui pour avoir de la presse locale? Il y a quelques... Moi, quand j'ai commencé à Lyon, je crois que le Progrès diffusait à 100 000 exemplaires sur la... Alors, aujourd'hui, il y a plein de clics sur le site Internet, mais qui est prêt à payer? Parce qu'en fait, avoir confiance, ça veut dire qu'on est suffisamment engagé, ou en tout cas qu'on a suffisamment confiance pour payer un service. Et ce service, c'est un service d'information. Bah, qui est prêt à payer? Bah, moi, ce que je constate, hein, malheureusement, c'est qu'il y en a de moins en moins de gens qui sont prêts à payer. En fait.
Et d'ailleurs, c'est un sous-groupe, littéralement, des groupes de travail, ouais, de la concertation citoyenne qui s'intitulait « Qui doit payer pour une information de qualité ?»
Tout ce qui ne vient pas des lecteurs, de toute façon, ça altère l'indépendance. Que ce soit des subventions, que ce soit la publicité, que ce soit n'importe quoi, le seul revenu absolument noble et qui permet, enfin noble, je ne vais pas aller dire ça aux annonceurs, mais le seul revenu qui garantit l'indépendance, c'est le revenu des lecteurs. Les autres, c'est, il faut faire avec. Nous, on essaie de faire avec. On a des choses à développer, peut-être avec des annonceurs, mais le seul revenu qui garantit l'indépendance, c'est celui des lecteurs.
Stéphanie Lucien-Brun, j'imagine que ça vous parle. parce que Mediacité fait ce choix de justement avoir des abonnés, de ne pas avoir de publicité. Vous-même, avec la Société des Amis de Mediacité, c'est 5% seulement du capital, donc ça reste quand même large pour le reste. L'investigation au niveau local, c'est important pour vous. Là, on est encore sur cette question de la granularité. Pourquoi il y a de la place, finalement, pour que des médias comme Mediacité émergent sur des territoires comme Lyon? Comment vous analysez ça?
Alors, il y a un point qui me semble important à préciser par rapport à Mediacité, c'est qu'en fait, Mediacité, c'est une rédaction qui est située sur les 4 villes d'implémentation. Donc là, on est sur une dynamique très particulière qui est qu'il y a une partie de l'équipe qui est à Lille, une autre à Lyon, une à Toulouse et une à Nantes. Et que c'est une équipe éditoriale qui à la fois joue la carte de l'implantation locale, de la proximité, et en même temps qui va travailler sur des sujets nationaux, sur des thématiques qui vont se retrouver sur tous les territoires. Donc il ne s'agit pas d'opposer le national et le local. Sur l'investigation locale, si je prends des exemples récents, notamment des exemples qui font que des procès sont aujourd'hui intentés à Mediacité. Si on prend l'exemple du promoteur Alila, donc, qui est aujourd'hui mis en examen pour un certain nombre de... qui a intenté 3 procès à Mediacité, qui en a perdu 2, qui a fait appel, etc. En fait, là, on est sur un acteur... Enfin, l'histoire a commencé à Lyon, mais a aujourd'hui des échos sur d'autres territoires, et on se rend compte que le travail d'enquête, d'investigation qui a été fait sur un territoire va trouver des résonances sur d'autres territoires, y compris des territoires sur lesquels n'est pas forcément Mediacité, mais sur lesquels d'autres médias vont pouvoir se faire écho. Donc, voilà.
Est-ce que finalement, on n'a pas plus envie aujourd'hui, quand on est lecteur, de proximité, quitte à ce que ce soit ailleurs en Bretagne, mais que ça nous parle? Est-ce que ce n'est pas cette bascule-là qui est à l'œuvre? Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer là-dessus?
Alors,
François Sapi.
La proximité, oui, mais excusez-moi d'insister là-dessus, mais est-ce qu'on est prêt à la payer? Parce que payer des journalistes pour faire des enquêtes comme à Mediacité, ou comme chez nous, ou comme à Lyon Décideur, aux Tribunes de Lyon, ça coûte cher. Donc il faut dire qu'on aime la proximité. Tout le monde aime la proximité, tout le monde aime l'indépendance. Qui est prêt à la payer aujourd'hui? Finalement, c'est ça le sujet, en fait. C'est-à-dire que là, nous, on vit une révolution, la presse, je pense, depuis 20 ans, qui est comparable à celle de l'invention de l'imprimerie, puisque avant, pour toucher un public, il fallait une organisation industrielle, il fallait aller voir les imprimeries du Progrès à Chassieux. C'était des trucs énormes. Aujourd'hui, un téléphone portable, un compte Facebook sur X ou un compte X, et on touche des milliers de personnes. Donc, finalement, tout le monde est un peu journaliste. On n'a plus besoin d'organisation industrielle pour diffuser l'information auprès du public. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? Et qu'est-ce qui fait qu'on pense qu'on va payer une information? C'est effectivement quand on fait appel à des journalistes. Mais est-ce que nous, les journalistes, on a suffisamment été à la hauteur de notre mission? Je ne sais pas, je l'espère. En tout cas, les gens semblent ne plus vraiment considérer que c'est un service qu'ils doivent payer. Et s'ils ne payent pas ce service, effectivement, on va avoir un problème parce que ce sera la presse sera entièrement financée par la publicité ou par des subventions, ce qui n'est pas super.
Muriel Florin, là-dessus, d'ailleurs, je précise qu'au Progrès, par exemple, vous avez fait une expérimentation récente sur une application payante à destination des jeunes qui n'a pas trouvé son public. Donc, c'est difficile de trouver finalement des gens qui payent pour continuer à faire ce métier-là?
Oui, absolument. On a fait une expérimentation avec une application qui s'appelait Azap et qui était payante, qui était pas très chère, hein, qui était, je crois, 6 euros par mois et qui était plutôt de qualité avec des moyens et une bonne équipe de journalistes. Et ça n'a pas marché. Alors, je rejoins ce que dit mon confrère François Sapi. Je vais être un petit peu provocatrice, peut-être. Je remarque que ceux qui disent qu'ils n'ont pas confiance aux journalistes, aux médias, sont assez souvent ceux qui ne les lisent pas. Voilà. Ça m'est arrivé. Alors, j'insiste aussi, la plupart de mes confrères journalistes sont des gens honnêtes, ce ne sont pas des gens malhonnêtes. Ce sont la plupart du temps des gens aussi passionnés, ce ne sont pas des gens qui veulent mentir et qui sont des feignants. Voilà. Donc ça, c'est un petit coup de pommade sur notre profession. Mais moi, j'ai été très souvent interpellée par des gens qui disent « Oh, vous, les médias, ça m'est arrivé très souvent », notamment quand j'étais journaliste sur les questions d'éducation. Je suivais les manifestations des professeurs. On va pas dire que les professeurs sont les gens les moins cultivés, informés ou avertis, je ne sais pas. Et très très souvent, vous les journalistes, vous ne dites pas la vérité. Et je leur disais, et est-ce que vous avez lu mon article hier? Ou est-ce que pourquoi vous dites ça? Et la plupart du temps, j'ai envie de dire 9 fois sur 10, on me répondait non. Voilà. Donc à un moment, moi ça m'agace, cette sorte d'ancienne là qu'on nous rabâche, finalement, la confiance aux médias, Bah oui, la confiance aux médias, vous aurez les médias que vous méritez si vous payez de l'information. On n'a pas trouvé la recette magique qui fait que quelqu'un, un journaliste, va passer 10 heures par jour à chercher de l'information gratuitement et à l'écrire gratuitement. Donc, parce que le journaliste, moi c'est souvent ce que je dis aussi aux gens qui nous demandent maintenant les PDF, des gens qui n'achètent plus le journal, même quand ils sont concernés eux-mêmes. On fait un article sur quelqu'un, eh bien il va nous demander, alors qu'il habite à Lyon, donc il peut acheter, il peut dépenser 1,20€ pour acheter le journal, eh bien non, il faut envoyer le PDF, enfin il faudrait envoyer le PDF, personnellement je ne le fais pas, voilà, Et ça, c'est un petit peu étonnant, effectivement, de se dire, mais...
Françoise Dédier, dans la consultation citoyenne, quel est votre regard, peut-être votre état des lieux sur ce qui s'est dit, sur le financement, peut-être ce que vous-même vous avez découvert sur le métier de journaliste, comment ça vous a fait changer, peut-être ?
Alors moi, je rebondirai un petit peu sur ce que vient de dire Muriel, dans le sens où effectivement, on entend souvent les gens effectivement critiquer les journalistes, mais je dirais dans le cas des EGI, je pense que quand on lit le rapport, nous on a été plutôt, je dirais entre guillemets, bienveillants, en se disant il faut aider les journalistes, c'est vraiment une question de survie de la démocratie. Donc moi je dirais j'interpellerais, ça peut paraître un peu dans le vide, mais il faut interpeller le citoyen, il faut interpeller les politiques aussi. Je pense qu'il y a un véritable enjeu malgré tout. Il y a l'éducation aux médias, c'est vrai que ça paraît, on se dit c'est un travail énorme à fournir, mais je pense qu'il va falloir en passer quand même par là. C'est-à-dire se dire, même quand on a un titre de presse, qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau, pour éduquer les jeunes, les intéresser. Peut-être que ça peut passer effectivement par un passage, malgré tout, on sait, hein, ils sont quand même sur les réseaux sociaux. Donc se dire, comment est-ce que moi je peux être présent sur les réseaux sociaux? Finalement, il y a des médias qui existent sur Internet, etc. C'est sûr que c'est compliqué quand on a été dans le papier tout le temps de se dire, il faut que je migre en partie sur avec Internet. Mais je pense qu'il va, de toute façon, il va falloir fonctionner avec Internet et les réseaux. Et je sais que c'est très compliqué. Mais ce qu'il faut, c'est que toujours on arrive quand même malgré tout à maintenir une information et que cette information elle existe et qu'on arrive à la diffuser. Pour moi, c'est vraiment très important. Enfin, pour nous, au sein de Zoji, c'était vraiment primordial.
Alexandre Buzyn, là-dessus. Canal.
Oui, on n'imagine pas de toute façon d'aller chez le boulanger et dire vous me donnez gratuitement le pain que vous avez produit. Donc c'est pour ça que moi j'ai quand même toujours du mal avec ce côté paiement de l'information. Alors est-ce qu'on n'arrive pas assez à montrer la différence entre la qualité de ce qui est payant et de ce qui ne l'est pas? Certainement que tout le monde déclare vouloir une presse de proximité indépendante et autres. je remarque que le grand écart n'est pas uniquement chez les citoyens, il est aussi de toute façon chez les politiques et les décideurs, où d'un côté ils sont pour, et de l'autre côté, dès que vous commencez à faire de l'investigation, effectivement, vous n'êtes plus invité aux conférences de presse, vous n'avez pas droit de communiquer, on ne vous répond pas, vous n'avez pas accès aux documents administratifs, voire effectivement, vous êtes traîné en justice. Donc effectivement, la liberté de la presse, elle est bonne quand elle ne vous concerne pas, puis quand ça vous touche, c'est un petit peu différent. Donc ça fait quand même partie aussi des problèmes qu'il y a. Après, la régulation, elle passe quand même aussi, parce qu'on parlait effectivement de Facebook notamment, mais elle passe aussi par la question des droits voisins. C'est comment effectivement ces géants redistribuent une partie de la manne qui touche grâce aux contenus qui sont fournis notamment par les médias, comment ils sont redistribués aux médias et aux journalistes aussi dans une certaine manière. Elle se pose aujourd'hui de cette manière-là, elle va se poser demain avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est l'agglomération et la collecte de données. Il faut bien que ces données, elles viennent de quelque part, et notamment des médias. Donc, effectivement, dans quelle mesure ceux qui vont piller et pomper les médias redistribueront une partie de l'argent qu'ils vont faire par ce biais-là? C'est quand même une des questions et un des enjeux de la régulation, à mon sens, dans les mois qui viennent.
L'intelligence artificielle, c'est un thème que j'aurais voulu aborder, mais on n'aura pas le temps. Il nous reste 2 minutes pour conclure cette table ronde. J'aimerais vous poser une dernière question à chacun et chacune d'entre vous. C'est finalement, on va faire aussi notre contribution à notre échelle avec cette table ronde. Quelle est la mesure que vous souhaiteriez porter, la plus emblématique selon vous, pour ces états généraux de l'information? J'en donne 4 pour vous laisser le temps de réfléchir, qui sont issus de la concertation citoyenne. Il y avait réactualiser le statut du journaliste par une nouvelle loi, la mise en place de critères de certification des journalistes ou des médias, ouvrir les médias à l'observation citoyenne avec une forme de transparence même dans les conférences de rédaction, par exemple, ou en cas de diffusion d'une fake news, l'obligation de publier un rectificatif au moins aussi long que l'infox. Voilà ce qu'on peut lire dans le rapport. Muriel Florin, peut-être la mesure que vous souhaiteriez porter?
Alors, c'est un petit peu compliqué parce que je pense que ça... Franchement, pour moi, ça passe par l'économique. Et il faut des mesures, des vraies mesures de soutien à la presse.
Donc un fonds de soutien financier.
De soutien financier.
Alexandre Buzyn.
Pour moi, c'est effectivement la capacité, ce qu'on appelle l'indépendance juridique des équipes rédactionnelles. Là encore, c'est un tout petit peu compliqué, mais c'est comment garantir l'indépendance des journalistes dans une entreprise et dans un groupe, effectivement, pour leur permettre de travailler en toute indépendance et dissocier le pouvoir actionnarial d'un côté du pouvoir éditorial de l'autre.
Françoise Dédier.
Moi, c'est arriver à créer un cadre légal tout en garantissant une liberté de la presse.
François Sapi.
Typiquement, Internet, c'est une grande photocopieuse, ce qui fait que la presse est pillée par plein de monde, et notamment par Google et Facebook. Alexandre parlait des droits voisins, mais les droits voisins, ça ne suffit pas, en fait. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de personnes qui se contentent d'un titre qu'ils voient sur Google et qui ne se rendent pas compte que pour faire ce titre, qui n'est que la vitrine d'un article, il a fallu beaucoup de travail de la part des journalistes. Donc, il faut qu'on trouve une solution qui aille beaucoup plus loin pour contraindre les géants du numérique à reverser une part de ce qu'ils gagnent, des fortunes qu'ils gagnent, à ceux qui produisent vraiment le contenu, à savoir la presse et notamment la presse locale.
Stéphanie Lucien Brun.
Alors, pour moi, une des priorités, c'est tout ce qui est la lutte contre les procédures bâillons. Je crois que quand on n'est pas du côté de la production de l'information, il est difficile de se rendre compte de ce que ça représente pour des médias indépendants, poids financier, charge mentale. Il y a un projet de directive européenne qui est en cours, et je crois que là, il y a quelque chose d'essentiel à soutenir.
Précisons pour les auditeurs, les procédures bâillons, ce sont donc des procès ou des procédures judiciaires qui visent à entraver ou à, comme vous dites, prendre de la charge mentale et financière, du temps, suite à la publication d'informations, des procédures qui parfois n'iront pas au bout ou qui se solderont par un non-lieu. Merci à tous les 5 d'avoir été nos invités aujourd'hui pour parler de ces états généraux de l'information. On espère avoir intéressé le plus grand nombre aujourd'hui à cette initiative qui continue, certes méconnue, mais qui va continuer jusqu'au mois de juin. Et on se retrouvera peut-être pour une prochaine émission. L'intégralité de cette émission est à retrouver en podcast sur rcf.fr, sur l'appli RCF. Merci à vous.